d'un nouveau pape.
Je vous remercie beaucoup Charles Mercier, professeur des universités en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux. Je rappelle le titre de votre livre, L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ qui a été publiée aux éditions Bayard. Vous restez avec nous, notre édition spéciale se poursuit tout de suite. Il est 13h30 à Paris et à Rome. On accueille maintenant une nouvelle invitée. Bonjour Valérie Régnier.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de la communauté Sant'Egidio que vous aviez précédemment présidée pour la partie française. Les messages viennent du monde entier depuis ce matin pour rendre hommage au pape depuis l'annonce de son décès il y a quelques heures. Un chef de l'Église catholique qui avait pris des positions très fortes sur des sujets pas forcément évidents. On a commencé à l'évoquer durant notre première demi-heure. Il avait beaucoup parlé, par exemple, du sort des exilés, des réfugiés. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait le 30 avril 2023.
Il est triste et douloureux de voir des portes fermées. Les portes fermées de notre égoïsme envers ceux qui marchent à nos côtés chaque jour. Les portes fermées de notre individualisme dans une société qui risque de s'atrophier dans la solitude. Les portes fermées de notre indifférence envers ceux qui souffrent et qui sont dans la pauvreté. Les portes fermées à ceux qui sont étrangers, différents, immigrés, pauvres. Et même les portes fermées de nos communautés ecclésiales, fermées entre nous, fermées au monde, fermées à ceux qui ne sont pas en règle, fermées à ceux qui aspirent au pardon de Dieu. S'il vous plaît, ouvrons les portes.
Ouvrir les portes aux migrants, l'immigration, c'était vraiment un sujet majeur pour le pape Valéry Régnier. Il en avait parlé dès le début.
Oui, tout à fait. Il a commencé son pontificat, je crois, par... il a toujours voulu être une voix forte contre les guerres et donc en faveur des derniers, des migrants, puisque les guerres provoquent aussi, on le sait, beaucoup de migration. Donc je pense que tout était lié. Et il me semble que quand il a parlé de honte, le 8 juillet 2013, quand il y a eu ce naufrage terrible de migrants et de réfugiés morts en Méditerranée, il s'est déplacé, c'était son premier voyage à Lampedusa, et il a vraiment parlé de honte. Il a dit sa honte face au sort des migrants et des réfugiés morts en Méditerranée. Donc il me semble qu'en effet, et c'est à ce moment-là qu'il a dénoncé la mondialisation de l'indifférence.
Pourquoi est-ce que ce dossier comptait autant pour lui, selon vous ?
Ben, je pense que c'était pas seulement une sensibilité personnelle. Son attention constante aux victimes de la guerre, aux migrants, ses appels incessants à l'hospitalité, c'était plus qu'une sensibilité personnelle. Je pense que vraiment il reliait ça au message de l'Évangile. On pourrait dire qu'il s'agissait d'un cri, d'un prophète humaniste qui a toujours été bouleversé par la quête de paix. La quête de paix de famille qui fuit la violence ou la grande pauvreté. Et je crois que c'est pour ça que François a plaidé l'accueil de l'étranger comme une exigence évangélique et un acte de justice. Il a toujours fait le lien entre les deux.
Cette prise de position, ça avait fait de lui aussi, volontairement ou non, vous allez nous le dire, un représentant du monde non occidental.
Oui, après j'ose espérer qu'en Occident nous avons aussi cette position d'accueil. Enfin, il parlait pour tous les catholiques et les chrétiens et le monde. Et il avait cette attitude de vouloir parler aussi de la culture du rebut et de dire plus jamais ça. Comme un autre pape après la guerre disait plus jamais la guerre, quelque part, en parlant de la culture du rebut, en parlant de l'accueil de l'autre, c'était il nous mettait nous-mêmes avec notre propre conscience face à ce qui se passe dans le monde et il voulait nous faire réagir par rapport à cette indifférence.
Ce message du pape à propos de l'immigration, de la nécessité d'ouvrir les portes, comme il le disait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il a été adressé en grande partie à une Europe qui se ferme aujourd'hui de plus en plus. Est-ce que la voix du chef de l'Église catholique porte aujourd'hui encore auprès des dirigeants européens ?
Je l'espère. Ça, c'est, il faut comprendre. Je pense qu'en effet, on voit bien la montée des nationalismes. Malheureusement en Europe, de cette Europe forteresse qui veut toujours plus se protéger. Donc en effet, c'est difficile, c'est pour ça qu'il avait cet appel incessant. C'est pour ça que nous, Santé Giglio, par exemple, nous avons dès 2016 proposé, vous savez, le projet, le protocole pardon, des couloirs humanitaires. Hein, donc c'est une voie sûre et légale d'accueillir des réfugiés en Europe, mais en effet, je pense qu'il faut aujourd'hui la voix du pape va nous manquer, ça c'est sûr, et il faut absolument que nous sentions héritiers, si j'ose dire, de cette voix-là. Je crois qu'il nous lègue, pape François aujourd'hui nous lègue son grand amour pour les pauvres et pour les migrants, et il a ouvert un chemin d'espérance dans la mondialisation de l'indifférence. Aujourd'hui, on était déjà responsable avant, nous le sommes certainement plus encore aujourd'hui dans cette Europe très forteresse, je dirais.
Vous dites votre travail avec la communauté Sant'Egidio. Quelle est la réponse que vous recevez de la part des autorités européennes, à la fois au niveau de Bruxelles et dans chacun des pays européens sur cette question? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de faire face à davantage de freins et de difficultés qu'avant?
Alors oui, on ne peut pas dire que l'ambiance, si j'ose dire, le climat, le changement d'époque, comme aimait à le dire pape François, le changement d'époque nous amène en effet à quelque chose de moins flexible, de plus inflexible. Et je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire, très grand travail, pour expliquer ce phénomène de migration et comprendre comment nous, l'Europe, nous pouvons accueillir les migrants. Et donc, à travers notre protocole des couloirs humanitaires, nous faisons preuve de beaucoup de pédagogie et je dirais de parler toujours sur l'accueil de ces migrants. Et nous continuons. Vous avez vu la semaine dernière, en Italie, il y a un protocole qui a été signé pour l'accueil de 700 Afghans à partir du Pakistan. Nous continuons en Belgique. Ce vendredi prochain, 25, nous allons accueillir des familles syriennes en provenance du Liban dans le cadre des protocoles humanitaires, donc à Roissy-Charles de Gaulle. Donc, je dirais que cela continue, parce que c'est une voie sûre et légale. Et je pense, nous, notre appel, en effet, à Sant'Egidio, c'est d'améliorer ces voies sûres et légales, et surtout de les étendre, de les rendre plus nombreuses, parce que depuis 2016, nous devons le dire, l'accueil et l'intégration fonctionnent. Donc, et ça, c'est très important.
Un travail dans la ligne de ce que défendait le pape François. Il avait notamment créé un ministère au Vatican chargé des questions migratoires. On se souvient aussi qu'en 2016, il s'était rendu dans le camp de réfugiés de Lesbos en Grèce et qu'il en était revenu avec 12 personnes dans son avion. Il avait pris position très régulièrement pour défendre plus d'humanité pour ses exilés, notamment en 2019 au Maroc, où on vous retrouve, François Humfer Katadji. Vous êtes en direct de Casablanca et on se souvient encore des mots qu'il avait tenu à l'époque.
Oui, le pape François avait en effet effectué une visite en mars 2019 au Maroc, il y a 5 ans, sur invitation du roi Mohamed VI, sa 5e visite dans un pays africain sur les 10 qu'il a effectuées, une visite qui à l'époque avait été placée sous le signe du dialogue interreligieux et des questions migratoires. À cette occasion, il avait rappelé dans un discours au peuple marocain, prononcé sous la pluie, c'est assez rare pour le souligner, son attachement à la liberté de conscience et à la liberté religieuse, qui, avait-il précisé, ne se limite pas à la seule liberté de culte, mais qui doivent permettre à chacun de vivre selon sa propre conviction religieuse. Mais plus que tout, le pape François avait voulu mettre en avant au Maroc la question des migrants et de leur accueil lors de cette visite de 2 jours avec ce mantra: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Il a plaidé à Rabat pour l'élargissement de canaux migratoires réguliers, autrement dit favoriser l'immigration légale et la délivrance de visas, et également le droit à ne pas être contraint d'émigrer, pouvoir vivre dignement dans son pays de naissance, en d'autres termes. Je préfère parler de personnes migrantes et non seulement de migrants. Migrant est un adjectif et personne est un substantif, avait-il aussi défendu. Alors ici au Maroc, le roi n'a pas encore réagi au décès du souverain pontife, Mohamed VI avait adressé une lettre au pape il y a un peu plus d'un mois pour le féliciter à l'occasion du 12e anniversaire de son investiture et l'encourager, je cite, à poursuivre sa noble mission en faveur de la consécration des valeurs humaines universelles.
François Humfer Kataji, en direct de Casablanca, lors de cette visite au Maroc, le pape avait tenu des mots très forts et il avait mis en garde notamment contre les politiques fondées sur la peur, selon lui, notamment sur la peur de l'autre. La peur, le prêche habituel des populistes, avait-il dit, et le début des dictatures. Valérie Régnier, vous êtes toujours en ligne avec nous. Au-delà de cette question purement migratoire, vous nous parliez des guerres tout à l'heure, de leurs conséquences. Il y a la question récurrente de la pauvreté. On en a parlé il y a quelques minutes. Le pape François avait voulu en faire un sujet très important et il s'était toujours affiché aux côtés des plus pauvres.
Oui, tout à fait. Le pape François, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il s'est toujours affiché auprès des plus pauvres, empêcher cette culture de rebut, donc c'est-à-dire rejeter ceux qui sont soit vieux, soit migrants, qui n'ont pas d'argent, dans une société de consommation forte. Et donc pour lui, la pauvreté, enfin les pauvres sont liés à la paix, c'est-à-dire malheureusement, les gens deviennent pauvres aussi parce qu'ils fuient un pays en guerre, parce que la paix n'est pas là. Et il me semble qu'il y avait dans son pontificat, en effet, un vrai désir de lier la condition des pauvres avec la paix. Il le dit tout de suite dans Evangelium Gaudium, dans la joie de l'Évangile, hein, sa première exhortation apostolique, quand il dit « L'Église peut être un modèle pour la paix dans le monde ». Et là, c'est aussi l'amitié sociale. Il lie absolument la paix avec les pauvres et l'écologie.
Et c'était notamment l'une des raisons pour lesquelles il avait choisi ce nom, François, oui. S'inspirant de Saint François d'Assise.
Exact.
Notre édition spéciale se poursuit après donc le décès du pape François. Yelena Tomic, depuis ce matin, de très nombreuses réactions viennent du monde entier pour rendre hommage au souverain pontife.
Oui, un grand homme engagé en faveur de l'inclusion et de la justice, un défenseur des plus faibles, un champion de l'action en faveur du climat qui laisse derrière lui un héritage unique. Les messages effectivement affluent des quatre coins du monde. En Europe, le gouvernement espagnol a décrété 3 jours de deuil pour celui qui laissera une marque dans l'histoire. Le roi Charles III s'est dit profondément attristé par la mort du pape qui a servi le monde avec dévotion toute sa vie. Volodymyr Zelensky salue un pape qui a prié pour la paix en Ukraine. Le président russe rend hommage à un dirigeant sage, un défenseur des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice. Pour l'Union africaine, le pape François était un avocat inébranlable de la paix. En Asie, le premier ministre indien Narendra Modi a salué un modèle de compassion, d'humilité, de courage spirituel, tandis que pour le président philippin, le souverain pontife avait le cœur ouvert à tous. Au Proche-Orient, Mahmoud Abbas salue un ami fidèle du peuple palestinien, l'Égypte, une voie de paix, d'amour et de compassion, que le pape François repose en paix, a enfin indiqué la Maison-Blanche dans un bref message posté sur X.
Des réactions aussi en Pologne, historiquement place forte du catholicisme en Europe, même si la pratique de la religion y décline aussi. Le pape François entretenait une relation plutôt difficile avec le pays en raison de ses prises de position progressistes dont on a parlé. Elles étaient totalement en décalage avec le conservatisme affirmé de l'église polonaise. Et notre correspondant Adrien Sarla est allé à la rencontre des fidèles devant l'église Saint-Florian à Varsovie.
À la sortie de la messe, Yolanta dit avoir prié pour François, qu'elle qualifie de pape révolutionnaire et qu'elle regrette déjà. Lui prenait pourtant un progressisme en décalage avec la majorité traditionnelle de l'église polonaise.
Pour lui, le plus important, c'était les gens et pas la richesse. Chaque personne était importante pour lui. Il ne jugeait pas les gens, quelle que soit leur croyance ou leur orientation sexuelle. Malheureusement, j'ai l'impression que pour les personnes âgées, la religion est plus importante que les individus, alors les jeunes ne comprennent pas ce qui se dit à l'église aujourd'hui. Et il faudrait la remodeler et l'amener vers la modernité.
Aujourd'hui, l'église catholique polonaise séduit de moins en moins les jeunes, peut-être parce qu'elle est la plus conservatrice d'Europe. Les mesures progressistes du pape ont surpris Eva, notamment lorsqu'il a voulu accroître le rôle des laïcs dans le fonctionnement de l'église.
J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Paul II et j'ai vu que c'était une personne extraordinaire qui pénétrait l'âme de ses interlocuteurs, qui lisait dans le cœur des gens. Ça, malheureusement, François ne l'a pas. Mais tout le monde est différent et seul Dieu sait ce dont l'Église a besoin.
En Pologne, l'ouverture du pape François à la communauté LGBTQ+, ses tentatives de donner l'accès au sacrement aux personnes divorcées ou d'accroître le rôle des femmes dans l'Église ulcèrent certains croyants. Ici, ses messages pour la paix en Ukraine ont été perçus comme un appel à la reddition pour Kiev, une position ambiguë et inacceptable pour Grajina, qui estime que le Saint-Père a renoncé à ses convictions pour s'adapter à l'ère du temps.
J'attends du prochain pape qu'il ait une relation particulière avec Dieu, qu'il ait son propre avis et qu'il suive cette direction et non qu'il essaye de s'adapter pour que ça plaise à un tel ou à un autre. On n'attend pas de lui d'être diplomate. Il faut qu'il ait une vision claire et qu'il ne laisse pas la place aux manipulations, qu'il ignore le politiquement correct et les possibles interprétations, car c'est justement tout ce qui amène de la confusion dans son message.
C'est qu'en Pologne, la communauté catholique remet constamment en perspective les agissements du pape avec ceux de leur pape, érigé au rang de symbole national.
Je ne saurais pas l'expliquer, mais je préférais ce que faisait notre père spirituel Jean-Paul II, ses décisions, ses voyages. J'ai l'impression qu'il était plus en contact avec les croyants de façon générale.
Ici, Jean-Paul II, disparu en 2005, reste une figure très respectée et adorée. Ses messages de soutien aux Polonais lors des manifestations de Solidarność pour s'émanciper de la chape de plomb communiste ont fait de lui un héros national. Mais plusieurs anciens prêtres, comme Stanisław Obirek, ont décidé de se distancier de l'institution religieuse qu'ils jugent sclérosée.
Par ses visites fréquentes, il a imposé son modèle conservateur comme le seul valable pour l'Église polonaise. Il n'a laissé aucune chance à une autre voie ou un autre modèle de catholicisme d'émerger. Et je pense que Jean-Paul II est à ce jour le plus grand destructeur de l'Église polonaise, car il a mené un culte de l'unité. C'est une forme de paralysie intellectuelle qui a mené à un manque de regard critique sur la religion. Et malheureusement, ça a mené à la monopolisation de l'espace public par les fondamentalistes religieux.
Après avoir quitté les ordres, Stanisław Obirek est devenu professeur d'anthropologie culturelle à l'Université de Varsovie, d'où il pose un regard très critique sur le rôle de celui qui fut l'ambassadeur de la Pologne à l'international. Aujourd'hui encore, des milliers de places, de rues et d'édifices portent son nom partout dans le pays.
Aujourd'hui, dire du mal de Jean-Paul II, c'est entrer en guerre avec Dieu, car c'est un saint qu'on ne peut pas critiquer de quelque façon que ce soit. Et c'est le pire qui pouvait arriver en Pologne, avec une personnalité autoritaire qui donne aujourd'hui encore son nom à des rues, à des hôpitaux, qui a des monuments à son effigie. Je pense que l'Église catholique polonaise est l'institution la plus menaçante pour le développement de la démocratie polonaise.
Aujourd'hui, 60% des jeunes polonais de moins de 30 ans se déclarent catholiques, une proportion inégalée en Europe. Mais l'Église conservatrice perd chaque année de plus en plus de jeunes fidèles à la recherche d'une institution plus inclusive.
Reportage de notre correspondant en Pologne, Adrien Sarla. Des liens difficiles avec l'Église catholique polonaise très conservatrice. Durant son pontificat, François a cherché régulièrement à établir des liens avec les autres églises et notamment celle d'Orient, Pierre-Olivier.
Oui, le pape François a été un artisan du rapprochement entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. D'abord, car il a toujours eu un attachement pour les chrétiens d'Orient. Déjà, dans son Argentine natale, il était dans sa jeunesse en contact avec la communauté libanaise maronite et la communauté ukrainienne. Et puis, en 2013, après son élection, le pape François n'a eu de cesse que de nouer des liens avec les chrétiens d'Orient. Premier déplacement à l'étranger, nous sommes en 2014 et le pape François choisit la Terre Sainte. Il y rencontrera le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, avec qui il se recueille au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Deux ans plus tard, poignée de main historique, cette fois à Cuba, avec le patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe russe. C'est la première fois que les deux principaux dirigeants des chrétiens d'Orient et des chrétiens d'Occident se rencontrent depuis le schisme de 1054. Partout dans le monde, le pape François apporte aussi son soutien aux chrétiens indépendamment de leur communauté. L'exemple, bien sûr, le plus marquant et le plus récent, c'est avec les chrétiens de Gaza. Jusqu'à encore très récemment, avant d'être trop affaibli, le pape appelait quotidiennement le père Gabriel Romanelli, le curé de la paroisse Gazaoui, pour prendre des nouvelles de la population et des fidèles. Il était acclamé, d'après le père Romanelli, en arabe par les habitants de Gaza. Il avait appelé encore très récemment, hier, le père Gabriel Romanelli pour prendre des nouvelles des fidèles jusqu'au dernier moment, quelques heures avant sa mort. Et puis on s'en souvient, hier, à l'occasion de Pâques et de son message, le pape François avait dénoncé la situation humanitaire dramatique et ignoble à Gaza, appelant à la paix.
Des messages qu'il avait répétés à plusieurs reprises au cours des derniers mois depuis le début de la guerre. Au-delà des églises elles-mêmes, Valérie Régnier, le pape avait plus généralement, au cours de son pontificat, tendu la main au monde musulman.
Oui, tout à fait. Il a toujours été, ça c'est l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, qu'il a écrit avec l'imam El Tayeb, recteur de l'université Al-Azhar en Égypte. Et donc dans cette encyclique, en effet, il appelle à l'amitié avec tous. C'est l'attention plus fragile, c'est l'amitié sociale et c'est surtout l'investissement dans le dialogue avec tous, que ce soit du plus bas au plus haut, hein, c'est-à-dire des quartiers au peuple. Et je crois aussi une prise de conscience que tout est perdu avec la guerre. Donc dans ce sens-là, et le dialogue avec l'islam est, je crois, très important aujourd'hui, et il faut aussi le continuer, il faut absolument relire Fratelli Tutti et continuer cette prophétie.
Alors on l'a évoqué rapidement il y a quelques instants, le pape s'était tourné vers l'église orthodoxe. On va en dire un mot avec notre correspondante à Moscou, Anissa Jabri. On se souvient de sa rencontre donc il y a quelques années avec le patriarche Kirill.
Oui, il faut voir déjà qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a rendu un hommage au pape François, saluant un dirigeant sage, un défenseur constant des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice. Le président russe a notamment écrit dans son télégramme de condoléances publié sur le site du Kremlin tout au long de son pontificat. Il a contribué activement au développement du dialogue entre les églises orthodoxes russes et catholiques romaines, ainsi qu'à une interaction constructive entre la Russie et le Saint-Siège. Et parmi ce que le chef de l'État russe qualifie d'interaction constructive, eh bien, il y a cette rencontre à Cuba entre le pape François et le patriarche orthodoxe russe Kirill. C'était le 13 février 2016. Un commentateur russe avait résumé la signification pour Moscou de cette manière, je cite, « Nous avons un ennemi commun, le sécularisme, et nous sommes prêts à lutter ensemble contre l'athéisme libéral mondial. » De son côté, le Vatican avait fait valoir qu'il s'agissait surtout d'affirmer l'alliance entre orthodoxes et catholiques face à l'islamisme au Moyen-Orient. D'autres ont souligné trois chapitres dans cette déclaration commune de l'époque entre Kirill et le pape François. Elle concernait déjà la guerre menée par la Russie à l'Ukraine. Il n'y avait aucune mention d'une quelconque responsabilité russe. Et à l'époque, bien, Moscou avait déjà annexé la Crimée et déstabilisé le Donbass depuis 2 ans.
Anissa El Jabri en direct de Moscou. Valérie Régnier, le rapprochement désiré avait été, il faut le dire, quand même un peu mis à mal par la guerre en Ukraine.
Oui, tout à fait. C'est une grande question. Ça rejoint la question de la paix et qu'il a toujours voulu entre Ukraine et Russie. Et ça, là, on ne sait pas encore comment on va le faire. Il a été très critiqué. Il a été très critiqué sur son désir de paix et il a toujours parlé pour la paix et contre la guerre. Mais je crois que cela correspond aussi à la tradition catholique. Pape François est très critiqué parce qu'il parle de la paix. Mais en fait, depuis Benoît XV dénonçait la Première Guerre mondiale comme un carnage inutile.
Alors, ce qui lui avait été reproché sur cette question, c'était des propos assez controversés. D'abord, en 2023, il avait utilisé le terme de Grande Russie. Et puis, l'année dernière, François avait appelé l'Ukraine à hisser le drapeau blanc, ce qui avait évidemment beaucoup déplu aux autorités ukrainiennes.
Oui, certainement. C'est sûr que c'est dans tous ces pourparlers depuis 3 ans, il y a certainement eu des maladresses, mais il faut voir le fond des choses. Il y a vraiment un appel pour la paix qui est très clair, puisque tous les papes ont toujours dénoncé la guerre au fur et à mesure depuis Benoît XV, et le pape François continue cet appel à la paix en disant que la guerre est la mère de toutes les pauvretés.
J'aimerais qu'on aborde maintenant un autre aspect du pontificat de François. Justine Fontaine, on va parler avec vous du travail qu'il a effectué pour réformer les finances du Vatican, puisqu'il avait à de nombreuses reprises défendu et mis en œuvre des actions pour une plus grande transparence au sein des finances, malgré une forte opposition au sein de la Curie. Le pape a fait sortir, par exemple, la cité-État de la liste des paradis fiscaux.
Oui, c'était Benoît XVI d'abord qui avait lancé le mouvement, mais François a porté ses réformes financières à une toute autre échelle. Quand il prend ses fonctions en 2013, le secret bancaire est encore de mise au Vatican et de nombreuses transactions financières ont lieu sans aucun contrôle. 2 ans après son arrivée, le secret bancaire est donc levé. L'année suivante, 5000 comptes suspects de ce qu'on appelle la Banque du Vatican sont fermés. Le gendarme financier de la cité-État voit ses pouvoirs renforcés et en 2020, le Saint-Siège se dote pour la première fois d'un code des marchés publics. François nomme aussi un juge anti-mafia au tribunal du Vatican, ce qui aboutit à des procès retentissants. Un ancien président de la Banque du Vatican est reconnu coupable en 2021 de blanchiment, de détournement de fonds et de malversation aggravée. Et surtout, il y a un an et demi environ, l'ancien numéro 3 du Saint-Siège est condamné à de la prison, 5 ans de prison, pour détournement de fonds et abus de pouvoir. Concrètement, il est accusé d'avoir utilisé de l'argent du Vatican pour obtenir un prêt immobilier et s'enrichir personnellement. Il a fait appel de cette décision.
Et puis d'après la Banque du Vatican elle-même, depuis le début des années 2010, la cité-État aurait perdu entre 800 millions et 1 milliard d'euros dans des opérations financières ou des opérations immobilières hasardeuses. Valérie Régnier, comment est-ce que ces actions du pape François ont été perçues au sein de l'Église catholique ?
Bah, c'est l'homme de la réforme. Donc c'est sûr que c'est très courageux de sa part. Et il a, encore une fois, il fait face au changement d'époque. Je crois qu'il a essayé aussi, il nous guide et nous oriente dans une période difficile. Et il ne voulait pas que les catholiques soient plus préservés que d'autres. Donc on est traversé par des transformations rapides, des grandes incertitudes, qu'il lui-même a qualifié de changement d'époque. Et dans ses paroles, dans ses gestes, il a voulu vraiment réformer l'Église comme il vivait lui-même.
Est-ce que c'est un point qui fait l'unanimité ?
Certainement pas. Mais je pense que pape François vivait avant tout... pour l'Évangile, il voulait absolument qu'il y ait un point de référence, il voulait vivre l'intégralité de l'Évangile d'une manière très humble, très pauvre. Et donc, tout commence par soi-même. Je pense que lui-même voulait montrer l'exemple, même s'il était souverain pontife, nous l'avons vu au cours de son pontificat en habitant la maison Sainte-Marthe, en le voyant dans des petites voitures. Enfin, voilà, c'était vraiment incarné par le bas de vivre comme tout un chacun alors qu'il était souverain pontife. Et je pense que c'était aussi une manière, face aux grands leaders de ce monde, de montrer une manière de vivre au milieu des pauvres et pour la construction de la paix.
Je vous remercie Valérie Régnier d'avoir été en ligne avec nous pour parler donc du pape François. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la communauté Sant'Egidio et que vous aviez précédemment présidé cette communauté en France. Pierre-Olivier, on va redire un mot peut-être de ce qui va se passer maintenant au Vatican après donc cette annonce du décès du pape François.
Oui, tout est très codifié. Depuis ce matin, 7h30, nous sommes donc dans ce qu'on appelle le sede vacante, ça veut dire le siège vacant. Alors pendant ce temps, il va y avoir la préparation du deuil, des obsèques, mais aussi bien sûr celle du prochain conclave qui permettra d'élire le futur pape. Alors tout cela va se faire avec des étapes très précises. D'abord, il va y avoir l'exposition du corps du pape, puis la procession jusqu'à la basilique vaticane, pour cette fois l'exposition aux fidèles, et puis la mise en bière, qui seront donc les funérailles, et puis suivie des funérailles. Normalement, l'inhumation du pape défunt doit avoir lieu jusqu'au 6e jour après la mort. Elle doit se faire dans la basilique Saint-Pierre, mais c'est un fait inhabituel. Le pape François a demandé à être inhumé non pas dans la basilique Saint-Pierre, mais dans une autre basilique tout aussi importante de Rome, la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est là où il avait coutume d'aller se confier lorsqu'il revenait de chacun de ses voyages pontificaux. Et puis, après ces obsèques, les cardinaux réunis en congrégation générale vont fixer les détails pratiques de l'organisation du prochain conclave. À savoir que ce conclave doit avoir lieu entre 15 et 20 jours après le décès du pape, donc après aujourd'hui, ce qui devrait donc nous amener au maximum vers le 10 mai. Et puis, à l'issue de ce conclave où les cardinaux du monde entier seront réunis et voteront, eh bien, il y aura, vous savez, cette fameuse fumée blanche qui apparaîtra et qui sera donc le signe que le 266e pape de la papauté a été élu.
Pierre-Olivier, le pape François décédé donc ce matin à 88 ans au lendemain de Pâques. De très nombreux messages d'hommage viennent du monde entier, d'Iran, d'Allemagne, d'Israël, de l'Union européenne, du Liban, de l'autorité palestinienne. Le président français a salué tout à l'heure un homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Le vice-président J.D. Vance, qui avait été reçu brièvement hier par François, a adressé lui ses pensées aux millions de chrétiens du monde qu'il aimait. Et puis le président russe, on l'évoquait tout à l'heure, a salué un défenseur de l'humanisme et de la justice. Même le Real Madrid rend hommage. On sait que François était un grand amateur de foot. Le club espagnol a observé une minute de silence tout à l'heure à l'entraînement. Vous restez avec nous dans un instant, le journal, et puis notre édition spéciale se poursuit.